Maison des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Écrit-on pour retrouver la mémoire? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui avec Angelo Rinaldi, qui publie Torrent chez Fayard, et Nina Yarjekov, auteur de Double Nationalité chez Paul, un roman récompensé par le prix de Flore. Bonjour Angelo Rinaldi.
Bonjour.
Cet académicien, vous fûtes pendant 30 ans la terreur des lettres françaises, tuant d'une phrase ce que vous teniez pour de piètres écrivains. Oui, c'est vrai.
Oui. J'avais quelques idées, je les ai encore sur la littérature, je me contentais de les appliquer, en essayant de faire en sorte que le lecteur ne s'ennuie pas trop, quelquefois.
Exactement, et vous nous en parlerez. C'est par d'autres mots tueurs que commence votre nouveau livre, Torrent, titre programmatique, car il s'agit bien, dans ce livre, pour votre héros, d'affronter quelque chose qui l'emporte et qui pourrait bien être le poids du passé, ses vertiges aussi. Ces mots qui tuent, ce sont les mots détonation, calibre 12, qui s'inscrivent sur la première page et qui nous raconte la mort d'un père, peut-être, dans un accident de chasse, peut-être, en Corse, peut-être. 40 ans après, le fils, François Pietri, obsédé par ses coups de feu, revient sur les lieux de ce crime, peut-être, dans un paysage méditerranéen qui le bouleverse et qui va précisément déclencher ce torrent de mémoire dont les jalons sont aussi les rares survivants de ce passé, survivants dans sa tête en tout cas, ce passé qui ne passe pas. Il est question de la Méditerranée, mais il est aussi question de Paris, où le jeune insulaire a fait ses débuts, d'une galaxie de personnages brillants aussi, comme Lina, une femme peintre aux toiles pleines de chats, Léonore Fini n'est pas loin, mais aussi d'un journaliste en bout de course, d'une bonne Anna, très très beau personnage de femme, et de Nicolas, premier grand amour aux yeux verts, héros peut-être de ce pèlerinage éperdu parmi les ombres de la jeunesse. Est-ce que, Angelo Rinaldi, on écrit avant tout pour les morts?
J'en ai souvent l'impression, mais je dois préciser que tout roman me paraît crédible quand il est écrit à l'imparfait et qu'il évoque un passé imaginaire, parce que seul le passé est indiscutable, le présent nous fuit comme une gorgée d'eau dans la bouche, l'avenir est incertain, l'avenir est comme le torrent, il nous emporte, nous ne savons pas où. Donc je ne crois moi-même en mon livre, c'est la moindre des choses quand on rédige un livre, que s'il est imparfait, s'il renvoie à un passé que je reconstitue à mon gré.
Et donc les morts sont dans le passé ou dans le présent?
Les morts sont dans le passé, parce que ce sont les seuls faits qui soient indiscutables.
Bonjour Nina Yarjekov.
Bonjour.
Vous publiez Double Nationalité, c'est chez POL, et ça commence par le réveil, si je puis dire, dans un aéroport, d'une jeune femme amnésique, munie d'une valise et d'un sac dans lequel il y a deux passeports, l'un français, l'autre yazige. La yazigie étant l'autre nom de la Hongrie, vous allez nous expliquer tout cela. Je dis vous, comme la narratrice de ce livre, où l'on s'adresse, comme dans La modification de Butor, mais aussi dans les livres dont on est le héros, que je lisais dans mon enfance, et vous aussi, on a à peu près le même âge, me permets.
Je les lisais aussi, effectivement.
Voilà, donc Butor ou les livres dont on est le héros. Et alors, qui est-elle, cette jeune femme? Eh bien, elle ne le sait pas. Est-ce qu'elle est une prostituée débarquant d'un pays de l'Est pour chercher fortune? Est-ce qu'elle est espionne? Est-ce qu'elle est intellectuelle? Est-ce qu'elle est les trois? Elle ne le sait pas. Elle va enquêter en nous plongeant dans la tête de son héroïne, tout au fond de son cerveau, du torrent aussi de son cerveau. On va suivre la moindre de ses réflexions. On explore toutes les pistes, les fausses, les vraies, les fantasmées, les pistes plus espiègles. C'est un roman qui ne manque pas du tout d'esprit. Et on va découvrir avec elle, est-ce qu'elle est simple, est-ce qu'elle est double, est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle est yazige, est-ce qu'elle est hongroise ou lutringeoise, c'est
oui,
ça?
Oui.
Parce qu'en fait, je dis ça pour Angelo Rinaldi, ce qui est très double dans ce livre, c'est qu'à la fois il y a la double nationalité, mais chaque pays est désigné par un double nom. Hongrie quand on y est, Yazigie quand on n'y est pas.
Exactement.
France quand on y est, Lutringie quand on n'y est pas.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chaque... Donc, il y a deux pays, si vous voulez, la France et la Hongrie. Et chacun de ces deux pays a un double... ce qui fait donc en tout 4 pays, puisque en quelque sorte il y a la Hongrie vue de la Hongrie et la Hongrie vue depuis la France, donc avec des lunettes françaises, et réciproquement, donc la France quand l'héroïne est en France s'appelle France, mais quand elle part, eh bien elle s'appelle Luttringer, et vue de un pays vu de loin ou vu de près n'est pas tout à fait le même.
Est-ce que double nationalité, Nina Jerzhekov, ça veut dire aussi double identité, ou est-ce que faire coïncider une nationalité et une identité relève totalement du fantasme?
C'est une des questions du livre, de savoir est-ce que, déjà, qu'est-ce que la nationalité, puisqu'il y a toute une un travail d'enquête intellectuelle, si on veut, d'investigation de l'héroïne qui va s'interroger sur le sens même de ce mot, et notamment elle va être amenée à le dissocier de la citoyenneté, alors qu'en français souvent c'est la même chose, hein. Quand on demande à quelqu'un quelle est votre nationalité, ce qu'on lui demande c'est qu'est-ce que vous avez comme passeport, alors que ce sont deux choses assez différentes. Donc elle essaye de creuser ces choses-là, et puis à ça s'ajoute la question de son identité personnelle, la question disons culturelle, historique, de la mémoire individuelle qu'elle n'a pas, mais qu'elle essaye de reconstituer, aussi de la mémoire collective.
Mémoire et identité, c'est la même chose quand on est dans un roman, Angelo Rinaldi.
Qu'entendez-vous par la mémoire et identité ?
Mémoire et identité. Est-ce que c'est la mémoire qui nous constitue ?
Le romancier, en général, se sépare de ses personnages. C'est leur mémoire qui lui prête. Évidemment, on met à cela sur les paysages des souvenirs que l'on a pu éventuellement conserver, mais je dirais que c'est une règle de romancier, peut-être un truc, de ne jamais voir les choses qu'à travers le filtre du passé pour les rendre irréversibles. Mais il y a aussi dans ce livre des personnages au présent qui agissent, qu'ils rencontrent en retournant par accident et par hasard dans sa ville natale.
Mais vous avez parlé de paysages quand je parlais de mémoire et d'identité. C'est-à-dire que les personnages, et non seulement les paysages, les personnages, on ne les alimente pas aussi avec notre mémoire de romancier ?
Oh oui, mais c'est un tel lot, une telle soupe, dirais-je, que... On ne sait pas ce qui revient de l'imagination, ce qui revient de la mémoire. Et personnellement, j'accorde beaucoup d'importance aux odeurs. Ça, je les ai prises dans ma propre mémoire, parce qu'il y a des odeurs en Méditerranée que l'on ne trouve nulle part et qui vous assaillent dès que l'on descend sur le tarmac de l'avion.
Et voilà. Là, on se met à écrire déjà,
oui,
dans sa tête.
Oui.
Nina Jerzhekov, sur cette soupe mêlant mémoire, identité, personnage, paysage, vous y souscrivez ?
Disons que moi, il me semble que dans les deux cas, on a affaire à quelque chose qui est construit et reconstruit, et on peut avoir un rapport assez dynamique, puisque la mémoire, on le voit bien, il y a des choses qui surgissent, qu'on oublie, qui reviennent, donc il y a un tri qui se fait, et l'identité, c'est aussi quelque chose qui se construit et s'élabore au fur et à mesure d'une vie. Après, il y a un rapport entre les deux, c'est-à-dire, je pense, pour construire l'identité, on va... disons, organiser sa mémoire.
Je disais à l'orée de cette émission qu'évidemment, nous allions parler de la mémoire. Et pourquoi ? Parce que c'est ce qui unit aussi vos deux textes. D'abord parce qu'il s'agit d'en susciter ou d'en ressusciter le torrent chez vous, Angelo Rinaldi. Ensuite, parce qu'il s'agit d'en retrouver la source chez vous, Nina Jerzhekov, ou chez votre personnage. Est-ce que finalement, dans le travail d'un écrivain, il peut s'agir de retrouver la mémoire, de convoquer des souvenirs, mais est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de s'inventer une autre mémoire grâce à l'écriture ?
Je suis dans ces cas-là pour justifier le fait en soi assez absurde d'écrire. Toujours le mot de Borges, j'écris pour moi, pour quelques amis et pour adoucir le cours du temps. Voilà, alors...
Très très belle.
C'est surtout adoucir le cours du temps quand on est dans cette besogne un peu bizarre. Eh bien, on est occupé par cela et on ne voit pas le temps passer, on l'adoucit, comme disait le vieil aveugle de Buenos Aires.
Nina, Jéka.
Après, tout dépend, parce que mémoire, en fait, il faudrait déjà qu'on définisse le terme.
Allez-y.
Fait. Mais je crois que là, on en a.
Elle est amnésique.
Oui, mon héroïne en plus est amnésique, ouais. Donc de toute manière, effectivement, la question de la mémoire, elle est assez centrale. Mais sur votre question, est-ce qu'on écrit pour se fabriquer une mémoire, en fait, c'est ça?
Réagencer ses souvenirs, en inventer certains. On connaît le côté affabulateur des écrivains aussi.
Oui, alors évidemment qu'on écrit pour fabriquer quelque chose qui va nous sembler être proche d'une vérité possible. Et cette vérité, on la tisse à partir d'éléments qui sont dans la mémoire. Mais bon,
c'est... Angelo Rinaldi.
Si on peut employer le temps de la confidence, quoi que l'on fasse, c'est éternellement le mot sur lequel Mozart finit ses lettres, aimez-moi.
Aimez-moi.
Vous ne le répétez pas.
Il parlait des odeurs, des parfums, Angelo Rinaldi aussi, dans la convocation de cette mémoire, hein, de ces paysages qui reviennent. C'est quoi chez vous, Nina Jerzhakov, qui déclenche justement cette mémoire?
J'irais plutôt chercher du côté de la musique, enfin, si on est dans le domaine sensoriel, plus que les parfums, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Vous voyez, quand je travaillais sur l'écriture du texte, j'essayais vraiment de me projeter dans la situation de mon héroïne, c'est-à-dire que j'étais assise à mon bureau, mais j'imaginais de manière extrêmement précise tout ce qui lui arrivait. Et en fait, c'est aussi ce faisant que certains souvenirs ont ressurgi. Dans le livre, par exemple, on rencontre la plaque commémorative qui se trouve au métro Charonne. Et je suis tombée dessus par hasard, si on veut, parce que j'avais placé l'héroïne. C'est parti du fait que je me suis dit, bon, elle va habiter le 11e, parce que c'est un quartier que je connais bien, j'y habitais moi-même. Et donc, elle arrive au métro Charonne, et là, j'arrive dans ma tête, dans la peau de mon héroïne, face à la plaque, et là surgit un certain nombre de souvenirs, voilà, auxquels j'aurais probablement pas pensé autrement.
Il peut aussi arriver que, chemin faisant, et ça représente des années de travail quelquefois, un détail dans la rue, dans le métro, la façon qu'a une femme de croiser les jambes ou de porter exceptionnellement un chapeau qui à la fois la vieillit et la rend à la mode, et vous l'enregistrez et puis vous l'incorporez à votre roman, tout simplement. Vous savez, le romancier, pour employer un grand mot, hein, pour la facilité de la conversation, le romancier est un chiffonnier, il ramasse tout ce qui traîne.
Baudelaire, d'ailleurs, avait utilisé cette comparaison du chiffonnier, trouvant justement des petits morceaux brillants parmi ce qui n'avait plus d'éclat et les récupérer,
voilà,
et les contempler.
Tout ce que l'inconscient vous suggère, vous le savez. Oui. Et puis les détails à la terrasse d'un café ou tout simplement dans une rêverie à la maison.
Un chiffonnier de la vie. C'est une belle définition, non, Nina Jerzhakov?
Mais pour tout vous dire, parce que j'étais en train de réfléchir en même temps, dans mon cas, la question est moins comment les souvenirs reviennent que faire de tous ces souvenirs et comment les trier. C'est-à-dire que j'ai plus un problème de trop plein.
De double.
Là, on n'est pas au niveau de la dualité. C'est vraiment que, cette sensation d'avoir énormément d'éléments. Et l'écriture, pour moi, c'est plus un travail de tri.
Un filtre.
Plus que retrouver. C'est-à-dire que trop de problèmes pour retrouver des souvenirs. C'est plus pour les écarter, pour qu'ils arrêtent de parasiter mon travail.
Ouais, vous aussi, Angelo Rinaldi.
Je voulais dire simplement comment inventer une mémoire plausible à un personnage imaginaire.
Mais comment on fait, justement? Si le personnage est imaginaire, on lui transplante une mémoire, justement, faite de toutes les choses qu'on a vues.
On la lui greffe, au fur et à mesure, il peut varier. Mais en règle générale, madame me donnera peut-être raison, on a au départ un certain plan, une certaine idée, des deux scènes, de personnages. Il faut naviguer pour le relier. Enfin, c'est toujours mon problème. Pour le nouer ensemble.
Je vais vous lire quelque chose. Vous allez reconnaître, normalement. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui à peine y sont-ils plongés s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de monsieur, je vais pas dire, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti ville et jardin de ma tasse de thé. Évidemment, c'est...
MP.
Exactement, monsieur MP, non pas Military Police, mais Marcel Proust. On n'en sort pas, finalement. Il a formulé ça et...
Je dirais que si Proust a eu un grand massif qui a étouffé de son temps des gens assez importants, c'est aussi parce qu'il a le charme supplémentaire de la description d'une société mourante qui va disparaître et qui a maintenant disparu. Dans Sade a terminé son livre parce qu'il se sent guetté. Lui aussi par la maladie, la mort et la faim, la ville n'ayant plus d'intérêt après la mort de sa mère. Il y a aussi la hâte de dessiner très bien les contours de cette société, qui nous vient aussi des journaux des Goncourt, c'est la même, avant de disparaître. Et alors, la supériorité dans le public, de MP, disons MP, comme MP. Un espion, voilà. C'est que... C'est un monde qui a disparu et qui a les diaprures de la mélancolie. Et c'est au détriment d'autres écrivains qui, eux, décrivent une existence que nous voyons tous les jours et des situations qui deviennent banales. Je dis Proust au détriment de Zola, de tant d'autres. Dans les situations, bien, nous pouvons les retrouver autour de nous.
Mais je parlais de ce cliché de la fameuse Madeleine, finalement pesant ou finalement tellement... Il y a du vrai dans les clichés, c'est pour ça que ce sont des clichés, finalement, surpuissants, qui fait qu'on ne sort pas de ça, la synesthésie, la sensation qui fait que tout un monde rejaillit.
Oui, je pense que ça fait partie maintenant, c'est quasiment, ça n'appartient quasiment plus à Proust, cette histoire de Madeleine. Je pense que c'est, ça fait partie de notre culture collective, et donc on l'a tous plus ou moins incorporé. Donc voilà, c'est.
Mais c'est dur d'écrire maintenant sur le souvenir qui revient quand il y a eu cette foutue Madeleine quand même.
Après moi j'ai une héroïne amnésique, alors j'avais pas trop de problèmes.
C'est pour ça,
de souvenir. Voilà, c'était pour éviter la Madeleine.
On oublie que si MP, toujours MP, a cette suprématie-là, elle n'a pas été toujours vraie. Parce que dans les années 30, après l'éclat de son Goncourt, 30-40, le règne des idéologies, la guerre qui vient, etc., Malraux disait et soutenait, et beaucoup d'autres avec lui, que ces histoires de duchesse n'intéressent plus jamais personne. Il faut que la guerre se passe. Qu'arrivent les années 60 et que Painter lui applique, à tort ou à raison, j'en sais rien, la clé psychanalytique, pour que tout d'un coup il revienne, il revienne à la surface comme les fameuses fleurs japonaises que vous venez de décrire.
Exactement. On continue avec vous, Angelo Rinaldi, et vos Madeleines à vous. Ça s'appelle Torrent. C'est publié chez Fayard, mais d'abord on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Le Pâtre sur le Rocher, Schubert, évidemment. C'est interprété par la soprano Lichtinan, Malcolm Martineau est au piano et Michael Collins à la clarinette. Battre sur le rocher de Schubert, interprété par la soprano Eilish Tinan, au piano par Malcolm Martineau, Michael Collins à la clarinette. C'est le choix musical d'Angelo Rinaldi, qui publie Torrent chez Fayard. Angelo Rinaldi, pourquoi ce choix musical ?
Oh, parce que j'aime beaucoup Schubert, et parce que, comme je dis toujours, la mélancolie est le seul sentiment qui pense.
Mmh. Vous dites, je voulais vous interroger sur cette question-là, sur cette très belle formule, mais pourquoi la mélancolie serait le seul sentiment qui pense ?
Parce qu'il nous renvoie en arrière, parce qu'il entraîne aussi une récapitulation de nos manques, de nos défauts, de nos ratages, des bonheurs qui ne recommenceront plus. Ça fait beaucoup de choses, à la fois, c'est vraiment très lourd, la mélancolie. Il faut aussi faire entrer dans ce sentiment la part des lieux. Il y a une mélancolie méditerranéenne, il y a une mélancolie des pays, je dirais, de civilisation sylvo-pastorale, comme la Corse, la Sardaigne, enfin, c'est un sentiment insulaire à tous les sens du terme.
La mélancolie est différente dans une île.
Oui, parce qu'il y a un climat d'enfermement qui l'exaspère aussi.
Qui la raffine.
Oui, ça c'est très avantageux comme définition.
Quelle importance a la musique dans votre travail d'écrivain ?
Je n'écoute pas de musique, parce que si j'écoutais de la musique, je n'écrirais pas. Puisque écrire, pour moi la phrase, c'est aussi tendre vers la musique. Donc, et pas de pléonasme.
Exactement. Vous ne concevez pas l'écriture comme un métier, hein. Je crois que c'est, vous dites, je ne suis pas un écrivain professionnel. Critique, vous l'étiez de façon professionnelle.
Ben ouais, il fallait bien que je gagne ma vie. C'était ça ou la soupe populaire. Enfin, je préférais de beaucoup un métier qui était proche de mes goûts et qui me permettait surtout, on ne l'a peut-être pas assez dit, des découvertes. Et j'ai trouvé des contemporains, tant étrangers que français, très bons. Enfin, ce n'est pas parce que j'ai été souvent
mode. Voilà, vous avez le rôle du méchant toujours.
Voilà, j'ai le rôle du méchant. Je suis résigné. Nous sommes tous victimes de malentendus.
Qui vous a vraiment justement surpris parmi vos contemporains ?
Ça va des poètes comme William Cliff, on ne parle pas assez de poésie, et presque plus du tout.
Et dans le roman ?
À Olivier Laronde, ça va proche de nous, nous pourrions le rejoindre en taxi dans sa banlieue, un romancier très simple, assez tchékovien, qu'est Dominique Fabre et d'autres.
Et cette activité vous manque, l'activité de critique ?
Je répondrai que toutes choses dans leur saison.
Vous lisez encore des contemporains ?
Ben oui.
Alors Torrent, parlons de Torrent. Torrent, c'est donc l'histoire d'une mémoire qui se reconstitue, qui se convoque à partir d'un bruit, d'un double bruit, deux détonations dans la forêt, dans le maquis corse. Hein,
à l'orée d'une ville.
Là-bas, à l'orée d'une ville. Ce n'est pas vraiment, c'est assez indistinct. Au cours d'une chasse où un homme est tué. Une double détonation qui avait résonné aussi fort dans la tête de François, votre héros, qu'une prise de méthadone, écrivez-vous. Cet homme qui a sans doute été tué, là, c'est le père de François. François qui revient 40 ans plus tard sur ce lieu même et qui ouvre les vannes de ce torrent de mémoire entre les années parisiennes qui l'ont constitué au sein d'une sorte de phalanstère artistique où il y a une femme que j'aime beaucoup, une femme peintre dans laquelle on croit reconnaître Léonore Fini. Voilà, je me souviens de ces photos magnifiques, Cartier-Bresson dans la Méditerranée, absolument sublime. Donc une peintre, une retraitée du surréalisme, dit-elle, un esthète un peu espion, un compositeur, on parlait de musique, que sa musique dégoûte parce qu'elle lui a apporté au fond une certaine forme de célébrité, de réussite, le succès, un grand couturier qui impose à ses amants de ramper nus sur la moquette, bref, toute la peinture d'un monde urbain et créatif, et de l'autre côté, ce qu'il appelle, donc en Méditerranée, son porte-à-porte au pays des ombres de son enfance. Il revoit le seul témoin vivant de son enfance, une vieille nounou qui lui apprenait le tango. C'est très beau, il y a un côté nouveau mystère de Paris et très proustien en même temps. Effectivement, la mélancolie y tient une grande place. Claude Arnaud, dans un article qu'il vous a consacré, évoque au sujet de ce livre le fait que parfois, en Corse, un bandit d'honneur sort du maquis pour revêtir la cagoule du pénitent et se mettre en tête de la procession pascale. Oui. Est-ce qu'il y a un peu de cela dans Torrent, de la procession pascale et du bandit d'honneur, Angelo Rinaldi ?
Je ne sais pas, en tout cas la procession pascale, n'oubliez pas, aboutit à une résurrection.
Il est beaucoup question de résurrection.
Oui. Oui, le bandit d'honneur, il y a surtout des bandits tout court. C'est le pays où le premier des commandements, tu ne tueras point, est complètement négligé.
Comment est né ce torrent ? Est-ce qu'il y a une Madeleine derrière ce torrent qui pourrait peut-être être une paire d'yeux verts ?
Non, mais quand le personnage principal arrive au bord de sa ville, il doit vraiment franchir un pont qui surplombe un torrent. Voilà, c'est là.
Mais ça, c'est le sens physique du mot torrent.
Oui, 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 oui.
Il y a aussi un sens métaphorique, si vous l'avez choisi comme titre.
Que j'ai l'intuition que nous sommes emportés vers quelque chose que nous ne connaissons pas et que je me refuse de définir, je ne sais pas. C'est cette impuissance que je dis, que j'essaie de dire, ne soyons pas...
L'impuissance à quoi alors ? L'impuissance à faire passer...
À conclure. Ouais. Tous les romans conclus. Je vous ferai remarquer que torrent ne conclut pas.
Non. Tous les romans conclus,
les grands romans, je dirais, oui. Nos grands modèles, ouais. Ils concluent tous, que ce soit Nana, que ce soit Madame Bovary, que ce soit certains tomes de Martin Dugard, ils concluent, mais je ne conclue pas.
Ouais. Vous ne vouliez pas faire un grand roman ?
Je voulais faire surtout un roman qui me rende sincère avec moi-même,
c'est peut-être
le plus difficile.
On règle toujours ses comptes, la sincérité, ça vous parle, Nina Yerjekov, quand on me dit, voilà, un roman qui permet d'être sincère envers moi-même.
Je pense que c'est essentiel, oui. Ouais.
On va voir ça avec vous tout à l'heure. Alors, vous avez défini le roman, Angelo Rinaldi, comme une dépression nerveuse dominée par la syntaxe. Pas mal, Nina Yerjekov.
C'est intéressant.
Qu'est-ce que ça veut dire, cette conception du roman ? Dépression nerveuse dominée par la syntaxe. Il y a beaucoup de choses là-dedans.
Oui, écoutez, il vous suffit de lire le journal d'une personne de génie, qui donc le dirait mieux que moi, le journal de Virginia Woolf. L'écriture me plonge quelquefois dans un désarroi dont je désespère de sortir, et je me rabats sur le vocabulaire, la recherche d'un synonyme. L'année dernière, même saison, j'étais à la veille d'abandonner. J'ai traversé une semaine où je me suis dit, bon, tu n'y arriveras pas, personne ne le sait, tu garderas ça pour toi.
Ça vous fait sourire,
oui,
Nina.
Oui, parce que ce sont des choses qu'on rencontre assez souvent quand même, de s'y apprendre et s'y reprendre maintes fois.
Oui, mais là, il parlait d'abandonner. Qu'est-ce qui expliquait que vous saviez à ce moment-là, et en fait ce savoir était balayé par la suite puisque vous avez continué ce roman. Qu'est-ce qui vous faisait vous dire à ce moment-là, je dois arrêter, personne ne le sait, c'est pas grave.
Oui.
Qu'est-ce qui expliquait ?
Je n'arrivais pas à dominer tous les personnages et j'avais le sentiment de ne pas pouvoir atteindre mon but. Voilà.
Quel est le but de Torrent ?
Le but de Torrent, s'il en a, ne parlons pas de littérature engagée, bien sûr, c'est justement de manifester notre sentiment d'impuissance et notre impossibilité à conclure, comme devant les eaux du torrent qui s'écoulent, invariablement, depuis des siècles, et qui vont vers où on n'en sait trop rien, comme notre existence a-t-elle un sens ? Je ne sais pas.
Le fait que vous ne vouliez pas conclure ce roman, c'est une façon aussi de défier... une chose qui se conclut, malheureusement, pour tout le monde, c'est-à-dire la vie.
Oui, mais la finitude va de soi, mais la vie, entre cette finitude, dépense des trésors d'imagination pour nous compliquer, nous tourmenter. Mais je dirais que même le bonheur n'est pas exclu dans cette incertitude.
Je vais vous lire une phrase de vous, Angelo Rinaldi, quelques phrases. Le bras qui s'était détaché du corps laissait apparaître un renflement sous l'étoffe du treillis, près de la poche poitrine, où l'on se trompait beaucoup, où il y avait de la finesse dans ses traits. La trentaine, savoir. Tant bien que mal, on distinguait un menton de qui ne s'est pas rasé le matin, qu'il caressait d'un revers de main, claquemuré dans un mutisme de passager, quand la conversation décroît et meurt au fil des kilomètres. Bleus ou noirs, ses yeux, bien qu'il tournât la tête de droite à gauche dans sa contemplation ou surveillance des alentours, tranchaient sur ce point, alors que de sa propre autorité, il venait d'éteindre le plafonnier. Que cherchait-il ? D'où provenait son assurance, et chez François la paralysie, l'abolition de ses défenses. Il y a des gens qui disent, quand ils sont confrontés à la phrase rinaldienne, à vos phrases, Angelo oui. Rinaldi, que c'est compliqué. Je dirais, moi, que cette phrase est luxuriante, elle regorge de détails, mais elle serpente. Oui. Oui. Vous êtes d'accord avec eux, cette complication-là, c'est quelque chose que vous cherchez, ou parce que le réel est trop compliqué lui-même qu'il faut le suivre?
Il me semble que là où je vais, n'importe qui peut aller. Je ne suis pas plus intelligent que les autres. Mais parfois, un peu moins, même. Voilà, c'est imposé par le récit, et je ne sais pas écrire d'une autre manière. Moi, je conçois un peu un stylo comme une caméra qui balaye plusieurs plans, à la fois le comédien, la comédienne, l'héroïne, le paysage, l'arrière-plan, la lumière, enfin, etc. C'est juste une caméra stylo, si l'on peut dire. Et ça, ça ne se fait pas avec des phrases, sujet, verbe et complément.
Que vous avez bien éreinté, d'ailleurs, dans le passé, chez certains écrivains, justement.
Oui.
La langue française, qu'est-ce que vous en pensez comme instrument, justement, de l'écrivain? Est-ce qu'elle est satisfaisante, justement, pour effectuer ce travail de convocation de la mémoire, de convoquer le torrent, aussi, des mots, de tout un monde passé?
La langue française, que madame nous fait l'honneur d'utiliser aussi, est une langue qui se distingue par sa musicalité. Je ne lis pas l'italien, mais l'italien est plutôt grandiloquent, l'anglais glissant, et le français a, me semble-t-il, cette particularité, et c'est que consonne voyelle, le mot se prolonge au-delà du moment où il a été prononcé. Par exemple, l'allemand est agglutinant.
Ben, l'allemand, il faut attendre la fin de la phrase pour la comprendre.
Oui, on a le temps de faire le tour du pâté de maison avant que le verbe leben n'intervienne. Le français me semble qu'il ne finit pas, même si le mot pas,
c'est drôle,
si vous l'employez, il se poursuit quand même dans l'air.
C'est très étonnant, parce que depuis le début de cette interview, Nina Yarchekov a dû le remarquer aussi, il y a une chose que vous voulez refuser absolument, c'est la conclusion. Il faut que le roman ne se conclue pas, il faut que la vie ne se conclue pas, et paradoxalement, vous donnez vie dans ce livre-là à un monde qui, quand on le lit aujourd'hui, semble un monde fini, un monde conclu. Ce personnage de retraité du surréalisme qui vit, qui peint ses chats aussi et ses
ne
femmes.
Ne soyez pas dupe des apparences.
Non. Mais ces personnages plus ou moins ayant flirté avec des collabos.
Oui.
Ce personnage de Corse qui ressemble à un pâtre aussi, ce jeune Nicolas qui meurt à 18 ans. On a l'impression que vous donnez vie aussi à un monde de spectres très vivants. Quand je dis spectre, je pense aussi à la mythologie et aux grands textes antiques où les spectres sont là on essaie de les toucher. En revanche, on n'y arrive pas, mais ils sont là. Vous venez de dire dans l'interview que rien ne devait se conclure. Vous voudriez que ce monde-là continue aussi à perdurer au moins par la littérature.
Il continuera peut-être dans l'esprit de madame, dans le vôtre, voilà, tout simplement. Et je regrette maintenant, je ne regrette pas, mais vous me donnez raison d'avoir l'année dernière surmonté la crise qui m'a permis de continuer. C'est une crise assez profonde, je dois dire.
Vous avez connu ça, Nina Yarchekov, pour Double Nationalité?
Oui, c'est un roman que j'ai écrit, je m'y suis prise à plusieurs fois et ça a été assez difficile de l'attraper.
C'est un roman d'une grande ampleur.
Oui, d'une grande ampleur. On va en parler tout de suite. Double Nationalité de Nina Yarchekov, c'est publié chez POL. Votre choix musical, Leibach, c'est ça?
Leibach.
C'est de l'allemand.
C'est le nom allemand de Ljubljana.
Capitale de Slovénie. Le titre c'est Life is Life, l'album Opus Dei, et c'est un groupe slovène.
Oui.
life. Life is life. Life. Life is life. When we all give the power, we all give the best. Every minute in the hour, we don't think about the rest. And we all get the power, we all get the best. When everyone gives everything, then everyone, everything will get. Life. Life.
Leibach, Life is Life, hein, reprise, mais par un groupe slovène. C'est le choix de Nina Jaržekov qui publie Double Nationalité chez POL. Pourquoi ce choix? J'adore. Je connaissais d'ailleurs en fait, oui. Ça, mais je savais pas que c'était Leibach. Voilà, vous m'avez.
Et bien,
ma mémoire a été comblée. Voilà.
Pour plusieurs raisons. Donc, ce morceau, c'est donc une reprise, ou plus exactement un détournement d'une autre chanson qui s'appelle Life is Life, ouais, du groupe Opus, qui est une chanson très différente. C'est une chanson, c'est
dansante,
disco,
ouais,
qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Et déjà, en soi, dans l'absolu, le geste artistique du détournement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, qui m'a toujours nourrie dans le cadre de mon travail d'écriture. Et ensuite, ici, on a pu l'entendre que d'un tube disco, ils ont fait une chanson avec des accents militaires.
Qu'est-ce qui vous plaît?
Alors, c'est ce qui m'intéresse pour le livre, puisque là, l'exercice consistait à choisir un morceau qui a un lien avec le livre. Et puis, on n'a pas le clip sous les yeux, mais dans le clip, il faut s'imaginer qu'il y a une sorte de gourou... un peu chasseur, parce qu'il est dans les montagnes, il y a un lac à côté, et en même temps, il y a une esthétique qui tire vers le nationalisme, voire le nazisme. Donc, du disco, on passe à ça, donc ça crée forcément un trouble, et ça pose un certain nombre de questions. Or, précisément dans le roman, la question du rapport au pouvoir politique se pose à plusieurs reprises à l'héroïne, et non seulement le rapport au pouvoir politique, mais à ses dérives nationalistes, voire quand elle verse du côté du totalitarisme. Donc c'est quelque chose qui est présent, et pour réfléchir à ces questions, le travail de ce groupe, Leibach, et plus largement du NSK, qui est le collectif d'artistes dans lequel Leibach évolue, a été très stimulant et inspirant.
Alors, Double Nationalité est le roman de la non-identité heureuse, c'est une phrase qui vous a été servie, je crois, le jour où vous avez obtenu le prix de Flore.
Oui, tout à fait.
C'est un voyage dans la cervelle d'une jeune femme qui se réveille un jour dans un aéroport et qui découvre qu'elle a tout en double ou presque, notamment deux trousseaux de clés, deux passeports, un passeport français et un passeport yazij. Donc la Yazidji étant un petit pays fictif situé entre la Pologne et l'Ukraine, dont on va apprendre qu'il s'agit de la Hongrie. Et ça, vous allez nous expliquer. Elle est amnésique et doit donc fouiller dans sa cervelle pour savoir qui elle est, ce qu'elle va faire parvenant, bon an, mal an, à retisser les fils de son identité ou pas. C'est très drôle, notamment quand, retrouvant une adresse boulevard Voltaire et prenant son trousseau de clés, l'héroïne se livre à une auto-perquisition. Il y a beaucoup d'esprit dans votre livre. Il y a aussi une construction intéressante. Justement, on va revenir à la Yazidji. En forme d'enquête en miroir. En effet, elle doit savoir, cette jeune fille, si elle est yazige ou française, mais aussi si elle est hongroise ou lautringe, c'est ça,
lutringeoise,
voilà, qui est le nom qu'elle donne à la France quand elle est en Hongrie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas deux pays, mais bien quatre, suivant la perception qu'on s'en fait. C'est une agent double, votre héroïne.
Alors, c'est pas seulement le nom qu'elle donne au pays, c'est vraiment, ça devient un pays différent, c'est-à-dire que...
Par la façon dont elle le vit et dont elle en parle.
Non, mais même, on est dans un pays qui est une figure du pays d'origine, mais qui a une histoire un peu différente, des traits caractéristiques un peu différents. Et donc, au départ, elle reprend ses esprits en France, elle est originaire, elle a la double nationalité franco-yazige. Et ensuite, à un moment donné, pour une raison qu'on évoquera ou pas, je ne sais pas, elle décide de partir en Yazigi. Quand elle arrive en Yazigi, eh bien, ça devient la Hongrie. Et c'est là que, effectivement, on peut comprendre que, eh bien, la Yazigi, c'était simplement la Hongrie vue de loin.
Fantasmée, presque.
Voilà. C'est une figure, si vous voulez. Et une fois en Hongrie, eh bien, elle n'est plus le pays d'où elle vient, où elle se trouvait le matin même. Ce n'est plus la France, mais la Lutringie. La Lutringie est beaucoup plus grande que la France. Les Lutringeois sont beaucoup plus arrogants que les Français. Il y a des et puis ils mangent des plats un peu plus étranges que les Français, etc.
Vous avez une très belle phrase dans Double Nationalité. En vous, et on parlera parce que vous avez choisi justement cette deuxième personne, la situation d'énonciation est la suivante. Vous avez choisi la deuxième personne du pluriel. On va en parler, mais d'abord vous avez une très belle phrase. En vous, il y a comme deux canaux, deux stations. Vous écoutez et parlez en même temps avec juste un léger décalage entre les deux. Ça entre, ça sort dans un double flux. Les langues vous traversent. Elle appelle ça le pur bonheur de la glisse. Vous êtes interprète, je crois, aussi. Est-ce que la voix humaine, on parlait de musique tout à l'heure, est une musique qu'il faut savoir écouter, en plus des mots qui sont prononcés? Et qu'est-ce que ça fait romanesquement? Est-ce que ça, c'est un outil absolument génial pour produire de la littérature, le fait d'avoir ce double canal?
Alors là, ce que vous avez lu, c'est on est en plein dans une séance d'interprétation et donc elle dissocie l'écoute et la parole. C'est-à-dire que d'un côté, elle est, bon, comme font tous les interprètes, on écoute et en même temps on parle, donc il y a un décalage entre les deux.
Après, mais romanesquement, justement, ça donne une possibilité d'être sur ces deux canaux. On parlait du double, chaque pays qui a son identité propre et son nom fantasmé, Hongrie, Yazigi, France, Lutringie.
Alors, je vous avoue que je ferai pas un lien direct comme ça. Alors, bien sûr que les deux langues sont très présentes dans le roman et aussi dans ma manière d'écrire. C'est-à-dire que là, dans le français du roman, il y a beaucoup de hongrois en dessous, à côté, cachés, parfois un peu visibles. Donc, il y a un jeu, mais... La dissociation qui est décrite, c'est une dissociation où on n'est pas du tout dans de la création artistique. Hein, c'est réception, émission. Elle se met au service, donc elle se fluidifie, essaye de faire corps avec ce qu'elle entend et ce qu'elle redit. Mais c'est très différent du geste d'écriture, il me semble.
Est-ce que vous aviez envie de dégarer aussi le lecteur en dédoublant dans cette course à la mémoire, finalement, en dédoublant non seulement les identités, mais les noms des pays?
Alors au contraire, moi j'ai pris grand soin du lecteur, en tout cas j'espère. Je voulais, comme c'est, il y a une dimension assez fantasque dans le roman, je voulais qu'en parallèle, on sache toujours bien où on est, qu'est-ce qu'elle fait, quelle heure il est, etc. pour bien cadrer les choses, pour que précisément je puisse être, qu'il puisse y avoir une grande fantaisie sans qu'on soit perdu.
Alors, il y a quand même un sacré défi au départ, parce qu'il s'agit de reconstituer une identité avec une absence de souvenirs.
C'est ça.
C'était pas, voilà, pas donné.
Après, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Donc, la situation de départ avec un héros amnésique qui enquête sur lui-même, je ne suis pas non plus la première à l'avoir fait.
Il y a de très bons films aussi. On va vous écouter, Nina Yerzhakov, lire justement le moment où elle ouvre sa valise. Enfin.
Vous soulevez le couvercle de votre valise. C'est un coquillage qui s'ouvre. C'est une boîte noire qui va révéler ses secrets. Cependant, vous comprenez vite que le paquet cadeau était beaucoup plus intéressant que le cadeau lui-même. Il n'y a là-dedans que des tenues affriolantes, un jogging vert fluo, une paire de sandales à paillettes et une trousse de toilette. Rien d'illégal, en somme, ce qui ne vous surprend guère. Plus vous apprenez à vous connaître et plus vous vous faites l'effet d'une fille dotée d'une probité sans faille. Et rien non plus qui vous permette de remonter la piste de votre existence. Ni agenda, ni carnet d'adresse, ni carte de visite. C'est la valise d'une fille qui n'écrit rien, qui ne lit rien. C'est un bagage sans mots. Il y a quand même un cahier. Vous bondissez du cœur en le saisissant. Fausse alerte, il est tout neuf. D'après le ticket de caisse, vous l'avez acheté à l'aéroport de Yassac ce matin même. Et il est définitivement vierge. Personne n'a pensé à y inscrire un message afin de vous faire part de son soutien moral. Cela prouve au moins que c'est votre première amnésie, que ce n'est pas un trouble chronique. Sinon, vous vous seriez préparé un mémo ou une feuille de route. Vous vous seriez laissé un courrier explicatif et l'un de vos proches, au hasard votre mari, serait venu vous chercher à l'aéroport.
Merci Onina Yarjekov. Extrait de Double nationalité, donc l'ouverture de la valise et la découverte d'un bagage sans mots, qui est bien le comble quand cette scène est racontée dans un roman qui en contient beaucoup. Le vous s'imposait justement pour la reconstruction de cette identité.
Alors dans l'écriture, ça a été une étape. Hein. J'ai pas commencé en vous. Au début, c'était en je, mais ça a été une étape très importante. C'est-à-dire le déclic du vous. Quand j'ai fait un essai et tout d'un coup je savais que c'était ça et que ça pouvait pas être autrement, ça permettait plein de choses parce que comme elle est en train d'enquêter sur elle-même, ça donnait une dimension aventure, comme on disait tout à l'heure, livre dont vous êtes le héros.
J'aime...
Ou Butor, évidemment.
La modification de Butor, c'est un texte que vous aviez aimé, Angelo Rinaldi, avec cette présence du vous comme ça, qui était un coup de semonce à l'époque.
Nous sommes en train de faire de l'archéologie littéraire.
Oui, enfin, mais c'est pas mal.
Oui, c'était ça.
Ce vous
était...
C'était
une expérience. Oui. Je ne la trouve pas très convaincante.
Bon.
Vous
ne parlez pas de votre livre, hein, pas de Double nationalité.
Naturellement.
Le Butor n'était pas là du tout en arrière-fond. C'est pas lui que vous parliez.
Non,
vous pensiez, pardon.
Voilà,
vous parliez peut-être.
Oui, j'aimais bien l'ambiance que ça créait, simplement avec ce clin d'œil au livre dont vous êtes le héros, mais surtout ça permettait, comme c'est un livre sur la question identitaire, ça permettait plein de jeux, parce que au lieu d'être en train de s'interroger sur elle-même, c'est-à-dire sur moi-même, si on le fait en jeu, c'est pas je m'interroge sur moi-même, c'est vous interrogez sur vous-même.
Oui, il y a le miroir qu'on tend aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un miroir tendu aussi, là, en parlant un peu de politique? Je sais que le terme de roman engagé va énerver Angelo Rinaldi, mais quand même, oui, quand même,
au-delà du raisonnement,
vous voyez, donc voilà. Donc on va bien s'en garder. Non mais effectivement, on parle de double nationalité. Vous avez écrit, je crois que ça a pris 8 ou 9 ans, enfin vous l'avez arrêté, vous l'avez repris, en tout cas...
c'est un projet qui a 10 ans, après j'ai fait plein d'autres choses,
voilà, donc ce projet,
ça a maturé longuement.
Donc ce projet a coïncidé avec le ministère de l'Identité...
Alors non, le projet 10 ans, si vous calculez bien, en 2006, on était dans un climat précisément beaucoup plus serein à l'égard de ces questions. C'est au fur et à mesure que moi, dans mon coin, je faisais mûrir le projet, qu'on surgit du côté de la scène politique.
C'est votre faute. Là, on est chez Borges, alors. C'est vous, en écrivant Double nationalité, qui avez déclenché tout ça. Ce questionnement identitaire fou en France.
En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, bien sûr que ça a eu ensuite un effet. C'est-à-dire, moi, j'avais en jachère mon projet, et puis j'allume la radio, et tout d'un coup, j'entends, il y a un ministère de l'Identité nationale. Forcément, ça m'interpelle, et forcément...
Et puis, il y a eu la déchéance de nationalité,
oui.
Et vous parlez dans votre livre d'un moment où on devra choisir, où la double nationalité elle-même va être... interdite.
Bon, alors la déchéance de nationalité,
c'est français,
venu,
pareil, Angelo Rinaldi.
C'est pas la même chose.
C'est, la déchéance de nationalité est venue tard.
C'est vraiment
tard.
Pas la même chose.
Je reprenais votre premier roman, Tuer Catherine, Nina Yarjekov. Vous écriviez ça. Minable héroïne de seconde zone, Catherine est un personnage de fiction sans œuvre fixe qui a eu l'indécence d'élire domicile dans mon corps. Au départ, je m'étais faite à l'idée d'être deux. Je suis partageuse comme fille, moi. Finalement, cette idée du double et de la... Je vais pas parler de schizophrénie, je vais pas utiliser
ces termes-là. Beaucoup employé, ça a été beaucoup employé au sujet de Tuer Catherine.
Mais finalement, il y a déjà cette scission, elle est là dès le départ.
En tout cas, la pluralité et le questionnement autour d'une identité qui n'est pas donnée comme étant homogène et monolithique, c'est présent dans les trois livres. Je crois que ça fait partie de mon travail d'écriture, d'essayer d'explorer comment on peut faire
de sentir un double étranger en soi est une source d'enrichissement.
Exactement.
En écoutant madame, je me le disais.
Vous vous sentez double, vous, Angelo Rinaldi?
Je me sens tristement moi-même, sans chercher à me donner un passeport.
Il y a beaucoup d'humour dans ce livre aussi. Dans vos veines coule le sang d'un peuple privé de thalassothérapie, par exemple. Il y a aussi tout un questionnement sur, évidemment, tous les clichés qui s'attachent à chacun des pays, puisque une des premières choses à laquelle elle pense, suis-je une prostituée, puisqu'étant donné que j'ai un passeport d'un pays de l'Est, que je suis une grande fille, elle se décrit, peut-être que je suis venue tenter ma chance justement en France. On parlait de cet arrière-plan politique. Donc vous disiez que finalement, ça a été tout à fait indépendant de vous. Vous avez suivi, à mesure que vous écriviez ce livre, les soubresauts politiques français autour des questions identitaires jusqu'à la déchéance de nationalité.
Oui, c'est moi quand j'ai eu l'idée.
Qui n'a pas été faite.
J'ai eu l'idée du livre à un moment où ces questions étaient beaucoup moins abordées. Ensuite, le moment, disons, du ministère de l'Identité nationale, j'étais en train de réfléchir au livre et bien sûr que ça a modifié un peu le projet, pas de manière substantielle, mais quand même, ça s'est invité dans le projet. Par contre, la déchéance de nationalité, c'est un moment où moi j'étais en train de finir. Ça n'a pas du tout modifié le livre, mais c'était très troublant parce que j'avais l'impression d'un télescopage tout à fait bizarre entre ce que j'étais en train d'écrire et ce qui se passait dans le réel.
Vous êtes allé en Transylvanie pour écrire ce livre, donc un pays aussi qui est entre deux pays.
Alors c'est
pays.
Une région.
Oui, j'ai dit un pays. Littérairement, c'est un pays avec toute la littérature gothique. Votre héroïne, et je voudrais terminer là-dessus et vous poser la question à tous les deux, s'impose des stimuli nationaux. Par exemple, elle regarde la Coupe du Monde de football de 98 pour voir si elle est émue, et donc si elle ne serait pas un peu française. Elle se met à étudier l'histoire de France, elle étudie des mots comme privilégié, comme réfugié, elle découvre la guerre d'Algérie aussi, et ses tortures. Et puis elle oppose, et c'est tout à fait aussi au centre des problématiques aujourd'hui, elle dit « Une vraie Française penserait, si je m'enorgueillis des Lumières, je dois également assumer la guerre d'Algérie. » En ce moment, et c'est là-dessus qu'on finira, il y a une expression qui vient toujours dans la bouche des politiques, c'est non pas de parler d'histoire nationale, mais de parler d'un roman national. Mmh. Qu'est-ce qu'en pensent deux écrivains, cette façon qu'ont les hommes politiques de parler d'un roman national ? Angelo Rinaldi.
Première réflexion, on habite moins un pays qu'une langue. Ce qui fait que Gombrowicz peut écrire en polonais, en exil, en Argentine. Deuxième point, je crois que le poète a raison, qui a dit « Les pays qui n'ont pas de légende sont condamnés à mourir de froid. » Donc il y a une adhésion au roman national qui me paraît nécessaire avec ce que ça comporte. Non pas de supériorité, loin de là, mais sinon nous n'avons aucune raison d'être
d'imaginaire, disons d'imaginaire.
Oui, oui,
mais vous mettez quand même la langue d'abord. Hein. Avant la nation, vous mettez la langue.
Pour moi, un Français qui parle, s'exprime et écrit en français.
Exactement.
Ma définition n'a rien à voir avec celle de la préfecture de police, vous en doutez.
Et sur cette expression de roman national, qui est très très à la mode en ce moment, Nina Jerzyk.
Alors, sur cette question, je pense.
Cette importance de la langue, dont
parler. Oui, bon, là-dessus, je suis complètement d'accord, mais je pense qu'en tant qu'auteur, on est tous forcément sur la même longueur d'onde. En ce qui concerne l'importance de la langue, évidemment. Mais sur le roman national plus précisément, je pense que ce sont des choses utiles, qui peuvent être très belles aussi, parce que ça réunit des gens et ça peut les faire vibrer ensemble. Mais je crois aussi qu'il est important d'avoir conscience de leur nature mythique, construite. Donc si ça existe, ça peut être tout à fait positif, mais n'oublions pas ce que c'est. Il ne faut pas le confondre avec l'histoire, par exemple.
Eh bien, merci à vous deux. En tout cas, voici deux romans qui sont mieux que seulement nationaux, parce qu'ils ont, ils sont véhiculés par une langue qui nous transporte bien ailleurs, hors de l'hexagone, dans l'imaginaire, dans le passé, dans l'humour aussi. Nina Jerzyk, Double nationalité, c'est chez POL. Et Angelo Rinaldi, Torrent, c'est chez Fayard. Merci à tous les deux. Merci Angelo Rinaldi.
Merci, cher Christophe.
Et merci Nina Jerzyk.
Merci à vous.
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Cette séquence vous est proposée en partenariat avec livrehebdo.fr. Nous sommes cette semaine avec Jean-Philippe Perroux de la librairie Le Silence de la Mer, 5 Place Saint-Pierre. C'est à Vannes, dans le Morbihan. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors vous avez choisi de nous parler de Fabrizio Puccinelli, auteur du Suppléant. C'est traduit de l'italien par Marc Logos et c'est publié aux éditions Héros Limite. Et ça se présente comme le journal d'un enseignant.
Oui, tout à fait. En fait, le Suppléant, c'est un journal ou plutôt les confessions d'un enseignant intérimaire. On est en 1972. Puccinelli a vécu dans ces montagnes italiennes. Il a été enseignant intérimaire. Et il raconte son histoire. Il raconte l'histoire de ces villages très isolés dans les montagnes, les personnages, ou plutôt les habitants de ces villages, très ancrés dans leur terre, très ancrés dans leur montagne, à la différence de lui qui est intérimaire, donc qui est là de passage, et qui est toujours en proie au doute. C'est ça qui est très beau dans ce texte, c'est le doute que Puccinelli verse un peu dans tout ce qu'il fait. Dans ses chroniques, il contemple à la fois le monde qui l'entoure avec émerveillement, mais aussi avec beaucoup de tension. Il y a comme quelque chose d'assez tendu dans son rapport aux autres, lié certainement à la différence entre les personnages dont il parle et lui-même.
Et ça se passe à quelle époque ?
Ça se passe au début des années 70 et il raconte ces montagnes italiennes, ces paysages splendides et en même temps cet isolement et une forme de temps qui s'est arrêté.
Et qu'est-ce qui vous a touché ? Vous, c'est la langue justement ? C'est ce décalage entre lui et la population dans laquelle il passe en fait, hein, plutôt qu'il ne reste ?
Ce qui me touche d'abord, en fait, c'est la modestie de son écriture et toujours son décalage et en même temps sa façon de parler de la nature. Je peux peut-être vous lire un extrait d'ailleurs, si vous voulez. L'hiver dans ces montagnes nous impose le sentiment de l'isolement. Ce sont les mois de la solitude la plus profonde et, à rester derrière les vitres, dans la chambre réchauffée, la cheminée allumée dans mon dos, j'ai l'impression de m'enfoncer dans un autre temps.
Ouais. Ça fait penser un peu à Robert Walser.
Oui, ça fait vraiment penser à Walser, vous avez raison. On est dans ce même genre, alors je dirais pas d'écriture, mais en tout cas de façon d'appréhender le monde, avec beaucoup de poésie. C'est vraiment très, très, très beau.
Très bien. Fabrizio Puccinelli, Le suppléant, c'est traduit de l'italien par Marc Logo, c'est publié par la maison d'édition Héro Limite, et c'était votre choix, Jean-Philippe Perroux. Je rappelle que vous venez de la librairie Le silence de la mer, qui se trouve à Vannes, 5 place Saint-Pierre, donc dans le Morbihan. J'invite les auditeurs à découvrir votre belle librairie. Vous venez d'ouvrir.
Merci beaucoup. Oui, hein, on vient d'ouvrir. On a ouvert le 2 décembre dernier.
Ah oui, en effet.
On est très heureux, on a un très bel accueil et merci en tout cas de relayer l'information.
Je vous en prie. Et quelqu'un vient qu'on aime beaucoup le 6 janvier à 18h.
Oui. Le 6 janvier, nous recevons Bertrand Belin pour son dernier roman Littoral paru aux éditions POL et puis pour également son premier roman Requin qui est sorti en folio.
Parfait, merci Jean-Philippe Perroux.
Merci à vous.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et Pierre Monteil à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr, 7 heures sur la mémoire et la littérature avec Angelo Rinaldi et Nina Yarjekov. Mmh.